laïcité. On est dans un pays qui est, on dit souvent, qui est déchristianisé. Mmh. Est-ce que peut craindre que ce statut particulier, qui est une chance, moi, en vous écoutant, je trouve que c'est une chance, ce concordat, est-ce qu'on peut craindre que ce soit remis en question par rapport à cette pression de la laïcité auquel on assiste en France? Est-ce que vous voyez des signes avant-coureurs de ça? Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, vous parliez donc d'une évolution qui date de ce siècle, finalement, du cultuel vers le culturel, du confessant au projet plutôt de connaissance. Est-ce que c'est la même chose chez les protestants et chez les juifs? Et à quel moment c'est intervenu chez les autres?
Les autres, c'est-à-dire
ben, les protestants et les
d'accord,
juifs.
Moi, je me demandais comment on répartissait, par exemple, le choix d'un intervenant catholique dans une école, ou protestant, ou juif. Enfin, est-ce que c'est selon la proportion? Enfin, ça paraît logique, mais ou est-ce que ça peut être plus... Voilà.
Alors, pour la crainte de la remise en question du statut par rapport à une pression de la laïcité, alors bien sûr je ne suis pas une spécialiste du droit local, mais il est clair que c'est tout de même une de nos préoccupations d'être toujours au fait de ce qui se passe. Alors moi j'ai envie de vous dire que j'ai commencé à enseigner dans les écoles en 1992. Et on entendait constamment, oh là là, dans une dizaine d'années, il n'y aura plus d'enseignement religieux. Oh là là, c'est pas possible, c'est quelque chose qui va fondre comme neige au soleil. Ça fait, c'est par période, c'est par étape. Après, une pression de la laïcité. J'ai envie de dire, pression, je n'utiliserai pas ce mot, pression. J'ai plutôt envie de dire, on a une chance que cette laïcité se soit effectivement développée. Mais je pense que cette chance, il faut savoir la saisir. C'est-à-dire, nous, au niveau donc de ce droit local, nous rêvons vraiment de pouvoir vivre cette laïcité en toute intelligence. Parce que bon, la laïcité, ce n'est pas seulement la religion. Dans cette charte de la laïcité, il y a 13-14 articles, dont la religion. C'est pareil, comme le droit local, il y a 13 domaines d'application, dont le registre des cultes et et l'enseignement religieux. Après, je pense que c'est également au niveau des statistiques que je vous ai montrées. Donc là, je parle spécifiquement pour l'enseignement religieux. Je ne peux pas parler pour l'ensemble donc du concordat, donc de tous les autres domaines que je vous ai montrés. Mais je pense que cette richesse de l'enseignement religieux, elle mériterait, en toute humilité que je vous dis ça, elle mériterait vraiment de servir d'inspiration, un modèle d'inspiration pour l'ensemble du territoire. Voilà. En toute humilité, voilà.
Non, mais je crois que ça répond aussi.
Pardon.
La déduction, la conclusion dans l'été.
Oui, oui.
Je pense que ça irait mieux.
Donc, le statut, bien sûr, il va encore être menacé, ça très certainement, mais comme je vous disais, ça fait des décennies que c'est ainsi. Après, c'est quand même, c'est pour cette raison, ça me paraissait important de faire un retour sur certains repères historiques. C'est quand même pas... C'est pas rien, quoi. Voilà. Mais il faudrait... Nous, on est tout à fait pour un concordat qui évolue. Il faut pas qu'il reste figé sur... Non, non, il faut qu'il évolue, comme l'enseignement religieux, il a évolué. Bonsoir.
Il a été créé pour toute la
Oui.
Au
des femmes.
Exactement, hein, exactement. Et c'est après que l'entonnoir s'est rétréci. Nous, je pense, et même donc quand on sonde un petit peu au niveau des opinions ou alors des échos à gauche à droite, on sent bien qu'il y a une volonté de faire évoluer la chose. Et il y a également une volonté de notre part. Quand je dis notre part, c'est donc au niveau du diocèse, de ne pas garder cette particularité pour nous, absolument pas. Il y a vraiment une volonté d'ouverture et puis d'élargir ça. Mais bon, je pense qu'il faut avoir les bons leviers. Pouvoir avoir les bons leviers, puis les activer aussi au bon moment, voilà. Donc, moi, j'ai vraiment, pour répondre à votre question, je ne sens pas une pression de la laïcité. Je pense que il faut que les choses restent à leur juste place, voilà, c'est ça. Et dès lors où les choses sont équitablement réparties, où elles sont à leur juste place, bien, on crée de l'harmonie, comme ça, Vous voyez, il y a la question qui était très très préoccupante au niveau de notre diocèse à partir du moment où on a fait ce pas de passer d'un enseignement religieux catéchétique à cet enseignement religieux non confessant. C'était pour les prêtres, c'était très très compliqué et pour certains prêtres, ça l'est encore. Ça l'est encore parce que bon, c'est pas du tout que l'école voulait déposséder les prêtres de quelque chose. Non, absolument pas. Mais c'est cette laïcité juste qui demande qu'à partir du moment où un prêtre a en charge une classe, il représente l'institution éducation nationale et à ce titre-là, on va lui demander une neutralité, donc pas de signe ostentatoire. On a des prêtres qui, durant de longues décennies, ont assuré ce cours en venant avec le col romain, la croix, enfin voilà. Mais actuellement, ce n'est plus possible. Pourquoi ? Parce qu'ils représentent une institution. Et à ce titre-là, il ne peut pas montrer un signe religieux ostentatoire. L'éducation nationale ne leur interdit pas d'entrer à l'école, absolument pas. Si par exemple un prêtre est nouvellement nommé dans une paroisse et qui veut se présenter à l'EHPAD et à l'école du quartier, il peut sans problème se présenter avec son col romain et sa croix parce qu'à ce moment-là, il ne représente pas l'institution, mais il représente sa fonction. Et je me souviens d'une visite pastorale que nous avions à Mulhouse, donc l'archevêque de Strasbourg souhaitait absolument participer à un cours d'enseignement religieux dans un quartier sensible, populaire de Mulhouse. Donc c'était pas gagné d'avance. Donc il fallait d'abord mettre les inspecteurs dans la boucle avec toutes les autorisations. Bon, l'inspecteur est même venu ce jour-là. L'archevêque a donc assisté à ce cours avec son col romain et sa croix pectorale, mais ce n'était absolument pas hors du cadre de la laïcité parce qu'il représentait sa fonction d'archevêque. C'est pour cette raison que je dis si les choses sont à leur juste place, ça ne peut que construire l'harmonie. J'ai répondu à votre question.
Du coup, par rapport à cet exemple-là de l'archevêque, il faut que la communication soit faite.
Voilà,
Que comment faire la différence, ça ne joue à pas grand-chose.
C'est un de nos défis. C'est tout à fait un de nos défis, ça, oui. Alors la deuxième question, l'évolution donc de ce passage du cultuel au culturel. Donc on en a déjà un petit peu parlé. On a senti le vent tourner, on va dire ça comme ça, dans les années 95, un peu avant l'an 2000. Et donc au niveau de l'équipe, j'étais déjà à ce moment-là donc impliquée au service. Nous avons donc rédigé le premier programme hein, terre des promesses, hein, voilà, qui était un petit peu, comment dire, il y avait encore un peu de catéchèse, hein, voilà, hein, mais on impulsait déjà, hein, on préparait déjà, voilà, le terrain, hein, pour les décennies suivantes, hein, voilà. Hein. Mais je pense que si la volonté était de garder cette heure, notre place à l'école, c'est un droit. Hein. Donc c'était à nous, effectivement, de changer nos lignes, hein, et de s'adapter à l'évolution de la société. Je pense que bon, ça aussi, hein, il faut une certaine flexibilité, hein, et accepter le déplacement. Bon, c'était un gros, gros déplacement.
La question,
hein,
c'était, est-ce que ça fait 120 trous pour
les... Oui, tout à fait. Absolument. Les trois cultes. Exactement. Hein. Oui, oui. Après, c'est clair que l'enseignement catholique est majoritaire, hein, dans les deux départements. Hein. Il y a peut-être encore quelques rabbins ou quelques personnes qui enseignent donc l'enseignement religieux israélite à Strasbourg, parce qu'il y a une communauté juive plus importante. Hein, hein, mais ça s'est fait en même temps, bien sûr. Oui, oui, il y a eu un travail donc de collaboration également, hein, entre les trois confessions. Oui. Oui.
Le culturel et le culturel. Oui. Et c'est une remarque parce que j'étais enseignante dans l'enseignement privé catholique ici à Belmalo.
Oui.
Et vous avez parlé dans les années vers 95,
oui,
une évolution du culturel vers le culturel.
Oui.
Et nous, il s'est passé exactement l'inverse dans l'école, l'établissement où j'enseignais, même des collègues protestants se sont formés pour faire dans cette école catholique l'enseignement culturel. Et tous les élèves, à partir de 95 à peu près, en collège, étaient obligés de suivre une heure d'enseignement culturel,
oui.
Et puis à côté, ils avaient, s'ils le désiraient, une heure de catéchèse.
Oui, oui, c'est ça.
C'est différent.
Oui et non. Oui et non. Oui.
Je veux dire que si la laïcité ça revenait au même, mais dans l'enseignement catholique,
oui,
et non pas dans l'enseignement...
Oui, parce que la particularité encore de l'enseignement catholique, c'est qu'il y avait, c'est qu'il y a encore, hein, dans certains établissements, donc une préparation sacramentelle, hein, c'est ça, hein, donc un temps de catéchèse, c'est ça. Et en fait, je pense que cette époque-là, c'était une époque charnière, hein, pour voilà, c'est ça, exactement, c'est ça. Mais à la différence, alors je pense que dans votre département, c'est très certainement pareil, au niveau de l'enseignement catholique, hein, donc dans les écoles catholiques, hein, c'est l'enseignante titulaire de la classe qui assure cette heure d'enseignement catholique qui est aussi obligatoire. Hein. Non,
non,
non, non, non, non. Oui, 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 oui. Il n'y a pas d'intervenant de religion extérieure dans les établissements privés. Hein? Oui, d'accord. Oui, parce que là, en Alsace, il n'y a aucun intervenant extérieur. C'est la titulaire de classe qui garde donc. D'accord, ah oui, d'accord, donc alors c'est pas du tout sur le plan, c'est encore très local tout ça, quoi, ah oui, ah oui. Mmh. Oui, complètement. Mmh. Donc, la troisième question, le choix d'un intervenant, oui, juif, catholique et protestant. Alors, il y a un document qui est remis donc au directeur d'école, hein, donc un document qui est rédigé par les services académiques, hein, c'est une circulaire rectorale qui donne des consignes, des informations précises à respecter, hein, donc pour l'organisation de cet enseignement religieux. Et annexé à cette circulaire, il y a un document que le directeur d'école va remettre à chaque parent. Souhaitez-vous que votre enfant suive l'enseignement de la religion catholique ? Les parents peuvent cocher.
souhaitez-vous que votre enfant suive l'enseignement de la religion protestante et l'enseignement de la religion israélite? Il y a les trois confessions qui sont proposées et les parents choisissent. Voilà.
Hein. Séparation, par exemple, dans une classe,
il y a des élèves,
ils ont peut-être possibilité d'avoir...
Exactement. Alors, on a des écoles, effectivement, alors à savoir qu'il n'y a qu'une heure d'enseignement religieux qui est autorisée par semaine. Hein. Il n'y en a pas trois. Hein. C'est une heure. Hein. Maintenant, il peut y avoir dans une classe des catholiques, des élèves, pardon, qui peuvent suivre l'enseignement catholique, hein, parce qu'on n'est pas du tout autorisé à demander la confession des élèves. Hein, voilà, je me rattrape très vite là. Des élèves qui ont fait le choix de suivre un enseignement protestant. Hein. Donc c'est aux intervenants, avec le directeur, hein, d'organiser au mieux, hein, que cet enseignement se tienne sur le même créneau horaire. Mais il y aura deux intervenantes différentes. Une intervenante de religion catholique et une intervenante de religion protestante. Mis à part le cas que je vous citais tout à l'heure, dans certaines écoles, il y a un enseignement interconfessionnel. C'est-à-dire que c'est une volonté du curé, du pasteur et des intervenantes du lieu, hein, d'organiser, donc de prendre ses élèves protestants et catholiques dans une même classe, sur un même créneau, hein, mais également de travailler le programme en commun, hein, voilà, et bien sûr avec accord des parents, quoi. Voilà, hein.
Mais quand on voit le programme que vous nous avez montré, on ne voit pas pourquoi ça pourrait pas partout être interconfessionnel. Quel est le problème?
On met, je vous ai extrait les grands axes, mais il y a tout de même une spécificité. On met l'accent sur les rites, les symboles, les traditions catholiques. Hein. Mais effectivement, ça pourrait très bien être revu et voilà. Hein. Hein, ça fait partie, ça peut faire partie de l'évolution que j'évoquais tout à l'heure. Hein, voilà. Pardon ?
Un deuxième pack de questions.
Oui, non, c'est moi qui parlais.
Alors, Sylvie.
C'est totalement différent du vivre ensemble. Alors, si c'est chacun est cloisonné comme ça, vivre ensemble et respecter l'autre,
oui,
et
oui.
Il faut le connaître.
Oui, c'est
il faudrait
oui,
donc
oui.
Que les
comparaisons.
Voilà, qui puissent avoir tous les enseignements. Mm-hmm. Et puis d'autre part, la société a évolué dans la classe à Mulhouse où l'archevêque est venu, mm-hmm. Il devait y avoir pas mal d'enfants d'origine musulmane.
Ah ben bien sûr, oui.
Et alors eux, je comprends bien, ils ne sont pas dans le concordat, mais...
Mais ce cours est ouvert. Ce cours est ouvert à tous les élèves, comme je le disais tout à l'heure, quelle que soit leur confession. Nous avons effectivement dans certaines écoles, Mulhouse, Strasbourg, Colmar un peu moins, des musulmans qui participent aux cours d'enseignement de religion catholique. Ce sont des parents qui ont fait le choix que leur enfant...
ils choisissent entre catholiques, protestants,
voilà, c'est ça.
Israélites, hein, donc...
Et c'est très riche, hein. C'est très riche. Pourquoi? Parce que bon, il y a un échange, hein, de...
Mais l'inverse, c'est riche aussi, hein, des enfants d'origine de parents catholiques qui étudieraient l'islam, ce serait riche aussi.
Bah
hein,
oui.
Parce qu'on fait l'identité, par
oui,
exemple.
Oui, absolument, mais bien sûr. Hein. Et nous, au niveau de l'équipe, hein, nous formons également donc les intervenants. Surtout autour des religions monothéistes. Hein. Nous avons fait venir Jean-François Bourg, hein, en charge du dialogue musulman, chrétien-musulman, voilà. Les intervenantes de religion ont donc été formées, hein, sur des grands axes, hein, de l'islam. Nous avons visité une mosquée à Strasbourg et Mulhouse. Ça a été un grand moment de fraternité qui a été vécu là. Hein. Voilà, donc il y a des choses qui avancent, des choses qui se...
pour s'adapter à l'évolution de la société.
Ah ben clairement. Hein, ça c'est sûr. Hein, il faut vraiment suivre ce courant-là. Hein. Oui.
Alors vous aviez une question,
la représentation, disons, le pourcentage de l'interconfessionnel, c'est plus les grandes villes ou les...
Non, alors c'est non, c'est pas une question d'agglomération, c'est vraiment une question. Par exemple, si je prends le nord de l'Alsace, hein, il y a une plus grande concentration de protestants, hein, et de ce fait, donc il y a un certain nombre de classes interconfessionnelles. Oui, voilà, ben, agno, il y a de l'interconfessionnel. Mais c'est une démarche qui doit être validée, une procédure qui doit être absolument validée donc par les autorités académiques et religieuses.
Si je prends mes loups, par exemple.
Oui, non, il n'y a pas d'interconfessionnel dans toutes les écoles. Il n'y a pas. Pourquoi ? Parce que bon, la réalité ne le demande pas. Les quelques élèves protestants qui souhaitent suivre un enseignement protestant, soit qu'il y a une intervenante protestante qui est disponible pour intervenir dans les écoles où il y a une demande, ou effectivement ce sont des élèves qui font le choix de venir en religion catholique.
Parce que quand j'allais voir, j'ai dit qu'il y en avait.
Non, il n'y en a pas.
Il y avait comme des juifs.
Il n'y a plus d'enseignement israélite. Le dernier rabbin qui intervenait dans le Haut-Rhin, c'était dans les années 2000. Oui, mais à Mulhouse.
Non, je parle de Samy.
Il y a une communauté juive, mais il n'y a pas de demande. Il n'y a pas de demande au niveau des parents, hein, c'est ça. Hein. C'est vraiment selon les effectifs. Et selon le choix des parents, hein. C'est ça, hein. Ça se décide par rapport à ça. Hein.
Madame, vous aviez une question.
Moi, si vous la prenez, est-ce qu'un élève peut changer aussi, aller dans un autre cours de religion pour s'informer?
Alors, pas en cours d'année.
Pas en cours d'année.
Non. Pas en cours d'année, ça c'est pour une question d'organisation.
Oui, d'accord, ça je le conçois, mais en cours de... En lycée, ça se poursuit, ces cours de religion?
Oui, alors ça c'est encore une réalité différente. Hein. J'ai quelques chiffres là, il y a à peu près 10 000 élèves, hein, voilà, hein, sur les deux départements, en collège-lycée, ça représente à peu près 60 professeurs de religion, mais c'est une réalité totalement différente. Hein. Alors la grosse problématique du second degré, c'est que cette heure de religion, elle est très très souvent placée soit entre l'heure, ou soit le vendredi, entre 15h et 16h, voilà, en dernière heure, hein, donc voilà, c'est ça. Hein, c'est vraiment, parce que le programme est vraiment très très intéressant, il s'inscrit complètement à la suite de ce que je vous ai montré. Hein,
Est-ce qu'au lycée, au collège, c'est aussi, ça rentre dans le programme?
Oui, du CP. Oui, c'est du CP à la terminale. Hein.
C'était dit,
oui, du CP à la terminale, oui. Oui.
C'est juste une petite précision par rapport à ce que vous avez dit, les parents reçoivent un papier. Oui. On est arrivé à Belfort en tant qu'enseignant au niveau collège et lycée. Ce papier a encore été distribué dans les années 1980, à peu près, oui, jusqu'à 90 et quelques. Et effectivement, c'était soit un prêtre, soit des gens qui ont été formés, qui intervenaient, toujours en fin d'après-midi, bien sûr, mais dans les locaux du collège.
Comment se fait l'articulation? Nous, il y a des gens qui viennent dans le cadre des programmes de 5e et des programmes de première et terminale. Les enseignants disent, nous, l'enseignement culturel des religions, ça fait partie de nos programmes.
Oui.
En histoire,
là
comment se passe l'articulation entre le prof des religions et le prof d'histoire, parce qu'il a ça dans ses programmes. Le christianisme, je crois que c'est en 5e.
Oui. Alors, je ne suis pas spécialiste du second degré, hein, comme je vous le disais, ce sont mes homologues, mais il est vrai qu'il y a, une transversalité, hein, au niveau donc des disciplines, hein, qui traitent déjà donc de certains sujets religieux. Hein. Maintenant, au niveau du second degré, hein, donc collège-lycée, comment cette articulation se fait? Mais il y a un programme pour les élèves qui souhaitent suivre cet enseignement, hein, mais il n'y a pas, j'ai envie de dire, de concertation avec les enseignants pour trouver une articulation. Au même titre hein, que dans le secteur primaire, hein, je vois ces dernières années, les enseignants qui ont bien compris en quoi consiste notre enseignement, hein, et quels en sont les objectifs, hein, font très souvent appel à l'intervenant de religion, hein, pour picorer, hein, voilà, dans les programmes. Je prends un exemple d'une école d'un quartier sensible de Mulhouse. Depuis quelques années, ils ont un programme de médiation, hein, donc durant une semaine, ouais, deux semaines, il n'y a pas cours, mais il y a donc objectif médiation. Alors il y a élection de médiateurs, il y a des ateliers, enfin bon. Et l'intervenante de religion, elle est sollicitée, elle est associée à ce projet d'école toutes les années, et elle extrait hein, de nos cours, donc, tout ce qui concerne donc, le vivre ensemble, le respect, enfin bon, il y a vraiment un travail, une collaboration, hein, une belle collaboration, hein, quelque chose de constructif qui se met en place. Hein, hein, et c'est là, effectivement, qu'il y a des choses qui peuvent se jouer. Maintenant, dans le second degré, c'est différent. C'est différent. Déjà, il y a davantage d'enseignants, hein, c'est pas, voilà, il y a un professeur par heure, hein, voilà, on va dire, hein, donc c'est beaucoup plus difficile de mettre en place un partenariat pour justement faire une articulation, quoi.
Hein. Oui, parce que dans les programmes du collège, il y a ces cours de... Le prof d'histoire, il a une partie religion.
Oui, oui, oui. Oui et non, parce que bon, oui et non, il y aura peut-être, il se tiendra peut-être strictement à ce qui est indiqué dans les domaines du socle commun, c'est ça, hein. Mais au niveau de l'enseignement religieux, il y aura toujours, je ne vais pas dire un plus, hein, si, c'est quand même un plus, si, il y aura quand même toujours une corde qu'on va rajouter à l'harpe, voilà. Hein, hein.
Oui, moi je repense un petit peu au choix des trois religions, catholiques, protestantes et juives, qui étaient dans l'enseignement religieux. Aujourd'hui, avec le nombre de musulmans qu'il peut y avoir dans les écoles, est-ce que la question d'un enseignement religieux musulman ne se pose pas ?
Bien sûr. Hein, c'est une question tout à fait pertinente. Hein, mais bon, je pense que là... ça ne relève absolument pas de nos compétences hein, et de notre réflexion. Hein. Je sais qu'il y a des demandes qui ont été faites à ce niveau-là. Maintenant, je pense qu'il faut être très très clair aussi. Hein, à l'époque de notre concordat, il n'y avait pas de musulmans. Cette réalité-là n'existait pas. Et je pense que si cette réalité était présente, hein, au même titre que les juifs, que les protestants et que les catholiques, bien, il y aurait eu une réflexion, voilà. Hein.
Mais ne faut-il pas faire une évolution là-dessus ?
Absolument. Hein, pardon ?
C'est de l'ordre politique, là.
Ah, purement. Hein. D'ordre politique, puis après, il faut également que ces autorités religieuses puissent rentrer dans le registre, hein, voilà, mais je suis tout à fait d'accord, c'est tout à fait pertinent hein, comme question, et on le voit bien hein, dans certains quartiers.
Est-ce que du côté protestant, il existe une formation, quelque chose d'analogue ? Autrefois, il y avait un certificat de pédagogie religieuse qui donnait donc droit aussi à faire... Alors c'était sans doute au moment du passage un peu culte, non c'était plutôt encore un peu cultuel, hein, dans les collèges et les lycées. Est-ce que vous savez si à Strasbourg quelque chose de semblable existe encore ?
Pour les intervenants de religion, vous...
Oui, c'est vrai.
Oui, Alors, bien sûr, j'évoquais la formation initiale et continue donc chez les catholiques, hein, mais chez les protestants, elle est différente. Hein. C'est-à-dire que bon, il y a un cursus universitaire hein, qui leur est imposé. Je ne sais pas de la durée.
C'est ADU, c'est le diplôme universitaire.
C'est ça. Exactement, c'est ça. Je ne sais pas sur quelle durée, mais...
Sur un an.
Oui, voilà,
c'est assuré par la faculté de théologie de Strasbourg.
Et durant ce temps, ces personnes ne peuvent pas enseigner, hein, tant qu'il n'y a pas... Alors que au niveau de l'enseignement catholique, il y a cette période de tutorat et il y a une formation donc initiale et continue que j'évoquais tout à l'heure. Hein.
Oui, Geneviève.
Est-ce qu'on pourrait imaginer que dans votre programme, vous mettiez le Coran?
Alors, Alors,
mais est-ce qu'on ne peut pas ouvrir la formation et les cours d'enseignement religieux au monde musulman? Parce que je pense que c'est indispensable si on veut se comprendre entre religions.
Alors, comme je vous disais tout à l'heure, au premier degré, hein, il y a effectivement une ouverture, hein. Ça va se jouer autour des lieux de culte, hein, des fêtes religieuses, et effectivement, il y a les textes fondateurs du Coran, non, hein. Mais on parle effectivement du Coran, hein. Des lieux de pèlerinage également, hein, la Mecque est citée, hein, enfin voilà, hein, il y a quand même, oui, complètement. Hein, il y a des documents, mais on n'étudie pas les textes du Coran comme on va étudier le texte de Joseph et les frères, par exemple, ou les notes de Cana, quoi. Voilà, c'est ça.
Est-ce qu'il y a une concertation qui se fait avec l'Allemagne?
Pas du tout.
C'est parce qu'il y a quand même une frontière.
Oui,
c'est...
oui.
Oui, vous t'envoie avec l'Allemagne pour avoir fait des échanges avec des liens allemands.
Oui, oui.
Les problématiques en Allemagne sont un peu... est-ce que vous travaillez un peu avec le diocèse du Bade-Wurtemberg?
Non, pas du tout. Alors, nous travaillons en collaboration avec le diocèse de Moselle, par contre, hein, donc de Metz, hein, qui ont exactement la même réalité que nous. Hein, voilà. Hein. Donc là, il y a des échanges hein, pour essayer qu'il y ait une cohésion et puis que au niveau administratif également, hein, parce que bon, ce sont deux académies différentes. Hein, voilà.
Mais vous,
oui.
Vous avez évoqué les chants.
Oui.
Ah, alors, quel chant?
Ah oui, alors nous avons un privilège hein, au niveau du service, c'est que notre directeur, M. Spirissen, est un musicien, auteur et compositeur. Il a fait un travail de titan. Hein, il a donc composé un chant pour chaque chapitre selon la thématique du chapitre. Hein. Voilà. Hein, donc, ce sont des chants qui résonnent très fort le vivre ensemble.
Concernait donc les catholiques et la communauté juive et les protestants, mais plutôt luthériens calvinistes. Est-ce que les évangéliques et par exemple les mennonites, qui sont assez bien représentés en Alsace, ils s'intègrent dans la mouvance protestante? Comment ça se passe?
Après, il y a des courants, il y a beaucoup de courants, hein, j'ai envie de dire. Voilà,
oui, ça, oui. Les protestants, il y a la fédération protestante qui regroupe des évangéliques.
Oui, oui.
Forcément dedans.
Il suffit qu'ils s'inscrivent à un cours protestant, en fait, c'est ça?
Oui.
Au niveau de l'école, il n'y a pas de différence hein, à ce niveau-là. Non. C'est vraiment...
Que les parents inscrivent leurs enfants à un cours avec un intervenant protestant.
Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça.
Attitré.
Voilà, c'est ça, exactement. Oui. Recruté et recommandé par des autorités protestantes, alors. Hein. Vous voyez, c'est cette dimension qui est aussi importante. Ouais. Quoi.
Est-ce qu'on pourrait imaginer que votre façon de faire, en étant encore sous le régime concordataire, puisse revenir dans nos écoles de la France de l'intérieur.
Oui, parce que ça amènerait quelque chose.
C'est un grand souhait, ça. C'est un grand souhait.
Vous m'en avez parlé en 1997. J'étais enseignante dans un quartier issu d'immigration, à Issus. Au jour du Seigneur, j'ai participé d'ailleurs à... la question était posée, la question était là, de l'éducation, de l'enseignement des religions à l'école. Et M. Borne, à l'époque, était inspecteur général, m'avait répondu, oui madame, il y a beaucoup trop de gens qui sont contre dans l'enseignement. Alors, est-ce qu'on peut ce serait une nécessité.
Oui,
ça,
oui, exactement. Moi, je pense qu'il
y a une heure
Alors, notre souhait, c'est vraiment de ne pas laisser ce concordat donc cloisonner, et qu'il y ait... Il faudrait lever les frontières, voilà, c'est ça. Il faudrait vraiment lever les frontières, c'est ça.
Au niveau de l'enseignement, il y a quand même une forte identité politique
C'est clair.
Opposé à ça.
Voilà. Il y a un historien, professeur d'histoire, Philippe Joutard, qui disait, qui a tiré la sonnette d'alarme, donc dans les années 90, mais il disait, je ne comprends pas, j'ai tiré cette sonnette d'alarme parce que j'ai alerté sur le manque de connaissances. Il avait pour mission de former donc des professeurs d'histoire et des professeurs en histoire de l'art. Et il s'est déjà rendu compte à ce moment-là qu'il y avait des carences, des lacunes, en connaissance judéo-chrétienne. Et c'est par rapport à ça qu'il a tiré une sonnette d'alarme. Et il s'est étonné très vite que ça a pris une tournure politique. Il a dit, mais c'est tout à fait culturel, au même titre qu'il y a des professeurs de lettres qui tiraient la sonnette d'alarme en voyant les cours de latin et de grec donc fondre comme neige au soleil. Voilà, c'est ça. Donc vraiment, le souhait serait de pouvoir faire évoluer. Cette spécialité, surtout l'élargir sur l'ensemble du territoire. Comme vous dites très justement, il y a donc des enjeux politiques.
C'est très lié. Quand on prend ce comté sur la place des religions, de l'enseignement du fait religieux, la Franche-Comté a toujours été, de par les différents recteurs, qui a initié cette joute.
C'est lui dont on parlait là.
Oui. Joutard, même nous, sur son nom qui était un professeur d'histoire, c'est
quoi, le précédent recteur.
Oui.
Chanet.
Voilà.
C'est lui qui a soutenu notre projet de visite des lieux de culte.
Donc ça dépend. Et après, l'avantage, quand je discute avec Jean-François Bourg, qui est un dominicain de Strasbourg, mais qui est responsable du service national de relations avec les musulmans, il dit, vous avez la chance d'être loin de la capitale. Donc il y a quelque part une liberté pédagogique, peut-être plus large, parce qu'on est loin, donc on dérange moins. On est peut-être moins sous le feu des médias, donc ça nous offre une liberté, il disait, profitez-en.
Après, il est vrai également qu'au niveau de notre service, de la direction de notre service, plus justement, nous portons également le souci d'en informer donc les élus, pour justement essayer de faire avancer donc les choses. Nous avons fait avec M. Spéricène, notre directeur, la tournée nous avons proposé donc notre un temps de présentation au maire des préfectures et des sous-préfectures. Nous avons eu très très peu de retours. Nous avons rencontré deux maires sur les 12 que nous avons sollicités, mais on sent bien qu'il y a la volonté et puis la prise de conscience. Ils sont convaincus effectivement du bien fondé de cet enseignement sur l'ensemble du territoire, mais Donc, si vous avez des questions, si vous avez besoin de renseignements, de pistes, hein, ou de conseils ou autres, hein, n'hésitez pas, hein, on est tout à fait donc à votre service. Hein, et puis, on espère effectivement qu'on puisse faire avancer, hein, les choses et que l'échange que nous avons eu ce soir, même si il y avait peu de personnes, c'est quand même très, très prometteur.
Hein.
Et on sent qu'il y a une volonté,